Radio Kapi.
Le chef de l'État salue ce qui est déjà fait dans le cadre de l'état de siège au Nord Kivu. L'état de siège ne devrait pas tout régler immédiatement, dit-il. Félix-Antoine Tshisekedi, en séjour depuis hier à Goma, était devant la presse nationale et internationale ce dimanche. Une délégation du ministère de l'EPST, partie de Kinshasa, séjourne à Kindu. Sa mission, géolocaliser les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et les bureaux gestionnaires. C'est pour des raisons d'homogénéité, explique le chef de la délégation. Et puis, l'invité de ce soir, Joseph Makundi, coordonnateur du service provincial de la protection civile au Nord Kivu, il revient notamment sur la distribution de l'assistance à plus de 20 000 familles sinistrées dès l'éruption du volcan Nyiragongo. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce journal part de Goma, où séjourne depuis hier le président de la République. Félix-Antoine Tshisekedi a tenu aujourd'hui une conférence de presse devant les médias internationaux et nationaux. Deux points au menu, la récente éruption volcanique et ses corollaires, ainsi que la gestion de cette crise. Le chef de l'État est revenu également sur l'évaluation de l'état de siège au Nord Kivu, notamment il y a plus d'un mois déjà, le compte-rendu de Denise Lukeso.
Quant à l'évolution de l'état de siège au Nord Kivu, les présidents de la République s'est dit satisfait jusqu'ici de ce qui est déjà fait par les autorités provinciales militaires. Pour lui, l'état de siège ne devait pas tout régler immédiatement à partir du moment où il a été décidé. Il affirme que le gouvernement congolais est engagé résolument à neutraliser ces bandits. Cependant, il reconnaît quelques poches de violence face auxquelles il dit qu'il va redoubler sa détermination pour en finir avec l'existence de ces hors-la-loi.
L'état de siège est décidé parce que à un moment donné, il fallait donner la parole à la force et c'est cette force qui sera appliquée jusque dans les derniers retranchements de ces barbares. Ces barbares savent que aujourd'hui, nous sommes engagés résolument à les faire disparaître. Ils vont essayer d'exister en faisant davantage de violence, mais c'est à leur corps perdu qu'ils le font parce que nous n'allons pas nous décourager. Ça ne nous impressionne pas, ça ne nous fera surtout pas reculer et surtout pas changer de décision.
Le président Tshisekedi Tshilombo reconnaît tout de même quelques imperfections dans le rang de l'armée nationale et il promet d'y travailler et améliorer. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Et en rapport avec la situation en Fataki, nous apprenons que les FARDC ont repris cet après-midi aux miliciens de la Codeco, cette localité. Selon plusieurs sources locales, ces miliciens se sont retirés de ce centre de négoce vers les localités de Masikini et Boudou, d'où ils étaient venus. Le porte-parole de l'armée en Ituri confirme l'information et indique que les FARDC contrôlent depuis lors Fataki et ses environs. L'armée qui par ailleurs appelle la population à faire confiance aux forces de défense et de sécurité de la République. Écoutez plutôt le lieutenant Jules Ngongo au micro de Martial Kizabiamungu.
À l'instant où nous vous parlons, les forces armées consolident Fataki et ses environs et nous continuons à pacifier pour que la reprise des activités socio-économiques reprenne comme c'était auparavant. À l'heure où nous vous parlons, la situation de Fataki et ses environs demeure sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le moment, nous appelons la population à continuer à faire confiance aux forces armées et au nom du gouverneur de province, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, il est redevable à sa population, pas aux politiciens qui se distinguent avec des déclarations chimériques, utopiques et aussi des chantages à sa personne ou à ce qu'il fait sur terrain. À la phase où nous sommes, il est difficile de vous donner le bilan. Les priorités sont connues et nous sommes dans cette phase où les forces armées vont de plus en plus aux résultats probants sur terrain.
Je vous rappelle que le centre commercial de Fataki, environ 80 km au nord de Bunia, était tombé ce matin aux mains des miliciens de l'URDPC Codeco. Selon des sources sécuritaires, c'était après des combats avec des militaires FARDC. Plusieurs morts ont été signalés dans les deux camps. Deux militaires des FARDC grièvement blessés ont été évacués par la MONUSCO à Bunia. Rendons-nous au Sud Kivu. Une cinquantaine d'étudiants de plusieurs universités de Bukavu ont été sensibilisés sur les violences sexuelles dans nos milieux de vie. Une activité organisée par la section genre de la police MONUSCO Bukavu en collaboration avec l'équipe UNPOL spécialisée en violences sexuelles basées sur le genre. Ces échanges ont eu lieu au Centre de recherche et documentation d'Afrique, CERDAF, dans la commune de Kadutu à Bukavu. Au centre des débats, les 16 formes de violences basées sur le genre en RDC, des était avec Rachel Kiesse.
La violence ou l'agression sexuelle est un acte, une tentative à caractère sexuel avec ou sans contact physique, sans le consentement de la victime, avec une manipulation affective ou un chantage. C'est ce qu'affirme l'UNPOL Judith Bertrand de l'équipe spécialisée en violence sexuelle lors de ses échanges avec les étudiants.
Les discussions ont tourné beaucoup autour du consentement et de l'âge légal, je dirais. Beaucoup de commentaires sur les nuances de la loi et surtout à quel point la loi existe, mais elle n'est pas appliquée. Nous avons le goût de débattre encore et je pense qu'ils étaient très, très intéressés à discuter.
De la part des participants, Moïse Tchombe, étudiant à l'Université officielle de Bukavu UOB, pense que ces échanges étaient fructueux.
Nous avons appris que la notion de violence faite en genre ne concernait pas simplement les femmes. Les hommes aussi peuvent être victimes et on nous a donné les causes qui peuvent être à la base des violences sexuelles et comment est-ce que nous devons nous activer pour faire face à ces violences sexuelles. Ce que je ne peux que faire, c'est m'approprier cette lite, donc elle devient ma lite. En plus de cela, je dois sensibiliser d'autres personnes qui n'ont pas participé à ces assises.
Signalons que l'équipe UNPOL spécialisée en VSBG poursuit cette sensibilisation dans les écoles. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Du côté du Tanganyika, la police des Nations Unies a clôturé hier une séance de sensibilisation sur la police de proximité et le rôle du comité local pour la sécurité de proximité à Kalemie. L'activité de la composante police MONUSCO a été mise au profit de la police nationale congolaise et de la société civile de Kalemie. La sensibilisation a duré 2 jours au centre Néema, le compte rendu de François-Xavier Mibé.
1 heure ou bien 2 heures du matin, il nous envoie même quelques polices pour nous sécuriser ces temps-là.
Francine Binkalunga fait partie des membres de la société civile qui viennent de bénéficier de leur sensibilisation sur la police des proximités et le rôle du comité local pour la sécurité des proximités. Cette activité de la police de la MONUSCO vient de se dérouler sous le thème de nouveaux concepts rationnels, police-population et nouveaux modes de gestion et de coproduction de la sécurité. Le chef de la MONUSCO ad interim, Leonidas Nkingiye, appelle les opérateurs de la sécurité à la réflexion continue sur les stratégies à monter pour améliorer la qualité des services de sécurité qui rapprochent la population et la police. La sensibilisation a permis aux participants à être édifiés sur la vision de la police nationale congolaise, sur l'attitude de la police dans le respect de la proximité police-population et l'identification des acteurs et le rôle dans la mise en œuvre du concept de proximité. L'un des animateurs de l'activité, le major Ndolomingo.
Nous devons cultiver dans la population et dans les policiers l'esprit de proximité, l'esprit de collaboration, l'esprit de confiance. Que la loi existe, on va monter le comité de sécurité locale de proximité.
Kalemi, François Diabemibé, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, dans la province du Maniema, géolocaliser les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et les bureaux gestionnaires, c'est l'objectif de la mission à Kindu d'une délégation du ministère de l'EPST du gouvernement central. Dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi, le chef de cette délégation, Kiliko Bola Gauthier, fait savoir que c'est dans le cadre du projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif PRC en sigle. Cette activité est à sa deuxième phase. Kiliko Bola Gauthier, chef de bureau patrimoine au ministère de l'EPST, explique au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes ici au Maniema dans le cadre du projet PERS qui travaille en partenariat avec la direction de l'information pour la gestion de l'éducation en Sud-Léniche. Notre mission, c'est de poursuivre la géolocalisation de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire, ainsi que les bureaux gestionnaires dans les provinces éducationnelles de l'Est, particulièrement au Maniema, du pays non couvert lors de la première vague. vague. Pour des besoins d'homogénéité, il sera collecté exactement le même type de données que lors de la première vague. Nous demandons aux directeurs provinciaux, chefs de sous-division et des coordinateurs des écoles conventionnées, ainsi que les directeurs des écoles, de nous disponibiliser des données fiables pour la finalisation de la nouvelle statistique et l'établissement de la carte scolaire numérique. Ce qui sera bénéfique pour la province de Maniema. Premièrement, ça va nous aider pour la distribution de manuels scolaires et ça va aussi nous aider à connaître les états des écoles, surtout que nous sommes dans la gratuité prônée par les présidents de la République où on constate qu'il y a un débordement des élèves dans des salles de classe. Ça va permettre aux décideurs de se pencher sur la question.
Et puis, école mobile pour tous, c'est le projet que l'orphelinat Avenir de Demain a lancé cette semaine à Kinshasa, à la place de la gare dans la commune de la Gombe. Sa spécificité, apprendre aux enfants de la rue âgés de 9 à 13 ans à lire, à écrire et à compter et leur inculquer des notions d'éducation de base. Un accent est mis sur les enfants qui se retrouvent dans la rue après la perte d'un des parents. Pour son premier jour des cours, cette association sans but lucratif a réuni une vingtaine d'enfants. Michel Tété signe ce reportage.
Nous ne sommes pas dans une salle de classe ordinaire, mais sous une tente rouge à la place de la gare. Sous cet abri, des chaises et des tables en plastique de la même couleur ainsi qu'un petit tableau blanc. Ces enfants de la rue sélectionnés au hasard bénéficient d'une formation des bases gratuites. Fidèle Moquet, secrétaire exécutif de cette ASBL, explique l'essence de cette initiative.
L'avenir des demain est une association qui aide les enfants de la rue. Ils ont droit aussi à l'éducation. C'est pour accompagner la gratuité de l'enseignement primaire lancé par le chef de l'État. Nous avons jugé bon d'apprendre à ces enfants de lire et écrire. L'avenir des enfants, c'est à l'école, pas dans la rue.
Ces enfants ne sont pas restés indifférents après cette première séance des cours consacrée à l'alphabétisation et au comptage.
On nous a appris l'alphabet et on a appris également à compter de 1 à 10.
Cette classe mobile ira jusqu'au 14 juillet prochain dans les différentes places publiques et à la fin, un concours permettra de récupérer ceux qui auront le mieux assimilé la matière pour une réintégration scolaire. L'orphelinat Avenir de Demain plaide pour un soutien moral et financier pour la poursuite de ces projets.
Bravo pour tout le monde!
Retour au Nord Kivu. Moins de 50% des besoins en dons de sang sont couverts au centre de transfusion sanguine de Butembo qui couvre cette ville et ses environs. Le docteur Amissi Emmanuel, médecin responsable de ce centre, l'a fait savoir ce dimanche à Radio Capi. C'est en marge de la journée mondiale de dons de sang qui sera célébrée demain 14 juin. Il indique que plusieurs raisons sont à la base de cette situation, notamment la réticence des donneurs de sang depuis le début des épidémies d'Ebola et de la pandémie de COVID-19, mais aussi le prélèvement local de sang par des structures sanitaires. Le docteur Amissi Emmanuel explique au micro de Florida Karambou.
D'abord, l'année 2020, la couverture en besoin était de 36,8% et de janvier de cette année jusqu'au mois de mai, nous sommes à 41,6% de transfusions sécurisées. Nous avons au moins 10 zones de santé. Dans ces 10 zones de santé, il y a 17 banques de sang qui viennent s'approvisionner ici au plateau technique de Butembo. Les raisons par rapport à la diminution, premièrement, c'est la présence de deux épidémies, Ebola, COVID-19, la population qui continue à résister à venir faire les dons de sang. Il y a d'autres structures qui continuent à prélever localement avec tous les risques possibles de transmettre les maladies. Notre objectif est de collecter 6000 dons par an, donc par mois. Nous devons distribuer au minimum 630 poche de sang. Mais nous arrivons à 500 dons par mois. Le besoin en sang est encore énorme. Que la population s'implique de cette activité de don de sang.
Actualité Afrique Monde.
Les Algériens sont dans l'attente aujourd'hui des résultats des législatives de samedi. On s'achemine, semble-t-il, vers une participation autour de 30% des quelques 24 millions d'électeurs, le plus bas taux d'un scrutin législatif depuis au moins 20 ans en Algérie. Les élections anticipées qui ont eu lieu 2 ans après le départ d'Abdelaziz Bouteflika ont clairement été boudées par les Algériens. Certains journaux préfèrent voir le résultat politique, mais beaucoup s'interrogent sur l'ampleur de l'abstention. Aujourd'hui, 13 juin, marque la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Au Kenya, les militants qui œuvrent à faire bouger les mentalités estiment que le progrès sont perceptibles, même si la stigmatisation persiste. Clôture ce dimanche du sommet du G7 qui se tenait au Royaume-Uni, un sommet qui, contrairement au précédent, marque le retour de l'unité entre ce club des 7 pays les plus riches, dans lequel ne figurent ni la Chine ni la Russie, deux pays qui ont fait l'objet de nombreuses discussions durant ces 3 jours de sommet, tout comme le climat et la santé. La présence du président américain Joe Biden a permis de donner un nouvel élan à ce G7, d'après la chancelière allemande. Les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, la France et le Japon se sont engagés dans la lutte contre la pandémie de coronavirus avec 1 milliard de doses de vaccins qui seront distribuées lors des 2 prochaines années dans une centaine de pays. Un plan pour réduire le délai pour développer des futurs vaccins et traitements va également être mis en place.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le coordonnateur du service provincial de la protection civile au Nord Kivu. Joseph Makundi nous parle du processus d'identification et catégorisation des sinistrés de l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Il revient aussi sur la distribution de l'assistance donnée par le gouvernement congolais pour plus de 20 000 familles sinistrées. Joseph Makundi s'entretient avec Bernard Denyangui.
Monsieur Joseph Makundi, bonjour. Nous avons appris qu'il y a eu un lot de vivres donné par le gouvernement. C'est quelle quantité?
J'ai des tonnes. Pour les sinistrés, je n'ai pas encore évalué, mais j'ai trouvé déjà au moins 50 camions qui sont déjà stockés avec les vivres. Il y en a en moyenne 300 sacs par camion, soit de maïs, soit de riz. L'huile qui est déjà là, je rassure à ce que tous les sinistrés, chacun va avoir son kit de retour du côté du gouvernement congolais.
Cela vous parlez de sinistrés ou de déplacés?
Je vais vous corriger maintenant et je vais corriger toute la nation. Pour la gestion d'une catastrophe naturelle, toute personne qui fuit à cause d'une catastrophe naturelle, on l'appelle sinistré. Même s'il va traverser la frontière de son pays, il reste sinistré. Et toute personne qui fuit la guerre et reste dans son pays, on va l'appeler déplacé. Et toute personne qui fuit la guerre traverse la frontière, on l'appelle réfugié. Voilà les termes comment on les utilise. Pour la catastrophe naturelle de l'éruption volcanique, ce sont des sinistrés. Ils ne sont pas des déplacés. Alors, ici, je rassure que tous ceux qui se sont réfugiés ou tous ceux qui se sont déplacés de leur milieu vers la zone X, tous ces sinistrés auront le kit de retour. Il est vrai, en organisant les retours de sacs, on n'a pas directement remis les vivres. C'était un essai que je faisais pour voir est-ce que ça peut être flexible. Mais je viens de voir qu'il faut que j'essaie avec Nyiragongo. Je donne directement le kit. Tout le monde part à la maison avec son kit. Parce que j'ai trouvé que ceux qui sont arrivés chez eux n'avaient pas à manger quand on a quitté Sake. Là, je suis obligé de revenir pour eux en urgence, pour qu'eux aussi puissent recevoir dans les 24h, 48h, leur kit alimentaire, afin que je puisse revenir en état d'équilibre dans le ménage. C'est pourquoi nous voulons dire, ceux qui sont dans les camps, qu'on les amène rapidement, rentrer dans leur maison et retrouver leurs biens. Commençons la vie, Goma Hakuna Matata.
Par rapport à votre plan de contingence, est-ce qu'il y a eu quand même une catégorisation des sinistrés?
Vrai, il y a une catégorisation des sinistrés. Il y a les sinistrés dont les coulées de lave ont calciné leur maison et leur champ, leur bétail. Mais il y a les sinistrés qui ont suivi le tremblement de terre et ils ont fui parce que la secousse était forte. Et il y a les sinistrés dont ce tremblement de terre a écroulé leur maison sur la terre. Ces 3 catégories de sinistrés sont traitées d'une manière différente. Les sinistrés dont les maisons ont été traversées par le tremblement de terre sont traités au même titre que les sinistrés dont les maisons ont été calcinées par la coulée de lave. Mais ceux-là dont les maisons n'ont pas été calcinées par la lave, ou soit la maison n'a pas été écroulée par la lave, pourquoi nous restons dans les camps?
Et voilà pourquoi ils étaient en train de les retourner.
Aujourd'hui, le gouvernement dit, nous tous on avait fui, il est vrai. Et les jours où on avait fui, tout le monde n'avait plus à manger parce que c'était la nuit. Ah, moi, papa, comme gouvernement, je donne à mes enfants à manger. avant de retourner. C'est le pourquoi de ces kits alimentaires que nous donnons aux familles pour que chaque famille retourne chez elle, chez lui, avec la nourriture, avec tout ce qui est comme message lié à l'observance au niveau de la communauté. Et là, quand vous allez voir le bus arriver, chaque bus à son chef de quartier. Celui qui rentre à Majengo, le chef de quartier de Majengo est là, il va la registrer. Vous aviez fouillé, vous aviez combien d'affaires au début? Est-ce que vous étiez marié ou vous étiez célibataire? Vous étiez fouillé à combien? Vous êtes maintenant aujourd'hui à combien? Vous retournez à combien? S'il y a un gap, pourquoi vous retournez moins? Peut-être un cas de maladie ou un cas de décès, je ne sais pas. Oh non, j'ai mangé mon enfant. Vous étiez locataire? Vous rentrez, vous êtes locataire. On n'a pas de choix, restez dans les sites.
Et pour ceux dont les maisons avaient été calcinées, vous le faites quoi?
Il y a un plan pour eux spécialement. Ils vont rester pour 2-3 jours pendant que nous construisons un petit site pour eux à Kanyaruchinya. Là, nous allons rester pendant 3 mois, pendant que le gouvernement est en train d'identifier un espace où il va loger ces gens. Ces gens dont les maisons ont été calcinées sont déjà connus. Et donc, on ne peut pas se filtrer, dire qu'on a une parcelle alors qu'on n'a pas une parcelle.
Monsieur Joseph Makundi, merci.
C'est moi plutôt qui vous remercie.
Le coordonnateur du service provincial de la protection civile au Nord Kivu était avec Bernardin Nyangi. C'est la fin de ce journal coordonné par Richard Junior Kamunga sous la supervision de Ben Kabamba. Merci de nous avoir suivis.